Bienvenue dans Racine Franco, l'émission qui explore les multiples facettes de la francophonie ontarienne contemporaine. Chaque lundi et vendredi à 8h, plongez dans l'histoire, la diversité et les témoignages inspirants qui font vibrer notre communauté. Ensemble, célébrons nos racines sur Choc FM 105.1. Ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Racine Franco. C'est de nouveau Nathalie Salmeron au micro et avec moi aujourd'hui j'ai la chance d'avoir Didjojo. On va parler de son pays d'origine à lui, le Bénin. Je vous rappelle au passage que Racine Franco, c'est cette nouvelle émission radio et vidéo hebdomadaire qui vise à faire mieux connaître et à partager les différentes composantes culturelles de la francophonie ontarienne actuelle. En vrai, plus simplement, je vais juste aller à la rencontre de nouvelles personnalités de notre belle communauté. Et ensemble, on va parler de leur région ou de leur pays d'origine et de leur culture propre et surtout de comment on vit cette belle francophonie ici à Toronto. Et je rappelle également que ce projet, il est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Comment ça va, Didjojo, aujourd'hui?
Ça va très bien. Il ne fait pas froid aujourd'hui, donc ça va.
C'est vrai, aujourd'hui, oui. Il fait plutôt bon, on a plutôt de la chance. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les auditeurs de chaque FM 105.1?
D'accord. Moi, c'est Didjojo Saizonu. Je viens du Bénin. Je suis béninois. Je vis actuellement à Toronto, mais plus exactement à Macam, en une vingtaine de minutes de Toronto. Je suis spécialiste de la communication et je travaille dans une agence, dans une organisation financée par le gouvernement de l'Ontario, eCampus Ontario. Je fais partie de la cellule de communication de cette organisation.
Waouh, donc ça fait 6 mois seulement que tu es là.
Oui.
Déjà trouvé un emploi.
Oui.
Waouh. Ça, c'est beau, parce qu'en général, les gens, ils galèrent un petit peu au début en arrivant.
J'ai effectivement eu beaucoup de témoignages de personnes qui ont eu beaucoup de difficultés. Mais de mon point de vue personnel, il y a de la chance et il y a également de la préparation.
T'étais bien préparé, toi?
J'estime, je pense bien, oui.
OK, bah on va revenir un petit peu plus en détail sur ça un peu après. Didjojo, dis-moi, qu'est-ce que tu penses avoir ramené dans ton sac à dos? Dans ta valise, peu importe le contenant que tu avais en arrivant, qu'est-ce que tu penses avoir ramené avec toi de ta culture béninoise en arrivant ici?
Déjà, c'est mon nom.
Ouais.
Didjojo. Dans ma langue paternelle, en fait, d'habitude on dit maternelle, mais de la langue où ça vient, c'est du Gon, originaire de la capitale du Bénin, Porte-Nouveau actuellement. Didjojo, ça veut dire bien-être, que ce soit sur le plan physique et sur le plan...
Mental?
Non, c'est plutôt spirituel, sur le plan métaphysique. Donc, okay. Sur tous les aspects du bien-être, que ce soit au niveau physique ou ce qu'on ne voit pas, Didjojo, ça veut dire bien-être.
Okay.
Donc, nous, les Africains, la plupart, avons été colonisés par des pays occidentaux. Donc, on a toujours un prénom qu'on appelle un prénom français ou un prénom occidental. Mais depuis 3 ans maintenant, j'aborde mon Didjojo fièrement et ça va.
Ah, parce que du coup, tu t'appelais autrement avant, tu avais un autre prénom?
Je m'appelle toujours Marc Aurel Didjojo.
Ah.
Didjojo est actuellement mon second prénom, mais celui que je mets le plus en avant.
D'accord, c'est intéressant ça. Mais du coup, sur tes papiers, par exemple, ton passeport, il y a le premier prénom, le prénom français, francophone.
Oui, toujours.
Ok.
Donc, c'est culturel d'aller au contact de personnes avec un nom qui vient de chez moi. Et de pouvoir débattre de d'où vient mon nom, de quelle langue ça vient et de sa signification.
Bon, de toi à moi, Didjojo, c'est plus joli que Marc. Hein.
Merci beaucoup.
De quoi, Didjojo, tu es le plus nostalgique du Bénin?
Les interactions sociales. J'avais un club d'amis, d'une vingtaine ou cinquantaine d'amis. Je voyais une dizaine d'entre eux chaque semaine ou chaque week-end. Ça fait partie des choses qui me manquent. Ce dont on manque vraiment à Toronto. C'est pas que c'est difficile de se faire des amis, mais c'est vraiment difficile de garder en contact. Les gens sont plutôt froids.
Tu trouves? Ouais.
Je trouve un peu. Ils sont très aptes à la conversation, mais la conversation n'a souvent pas de suite. C'est mon avis. Mm-hmm. N'a souvent pas de suite. Donc
le contact, il est facile, mais garder après, le lien, c'est plus dur.
C'est plus dur.
Ouais.
Les gens ne sont pas enclins à rapidement laisser le contact. Quand on fait un petit suivi ou quand tu écris ou tu demandes à la personne tu es bien entré ou comment ça va et tout, ça s'arrête là.
Et est-ce que c'est des personnes de la communauté francophone ou plutôt anglophone?
Non, je dirais non, pas francophone. Par contre, les francophones que j'ai rencontrés, beaucoup étaient nouveaux arrivants comme moi, donc on est solidaires.
Plus enclins à garder contact.
Oui, pour s'aider mutuellement, se partager des informations, etc. Donc ça va. Mais quelqu'un que tu rencontres dans un bus, vous discutez d'un sujet, il y a la barrière de la langue, d'accord? Mais quand on surmonte ça et on discute, on passe, disons, 45 secondes agréables à débattre des Raptors qui ont perdu leur dernier match et tout, il n'y a pas de suite. Ça fait à la revoyure, mais...
Voilà. La revoyure, ouais, c'est vraiment ça. Comment elle est ta communauté ici? Est-ce que tu as eu la chance déjà de rencontrer d'autres Béninois comme toi ici depuis que tu es arrivé? Ou justement, c'est un peu plus dur et du coup, bah, tu as plus été à la rencontre de la francophonie plurielle, on va dire, que de la communauté béninoise en tant que telle?
En deux volets, j'ai rencontré des Béninois, deux personnes que je connaissais déjà depuis le Bénin. Un frère à moi, on a vécu dans le même quartier, mais il était à Toronto depuis. Il est au Canada depuis 2013. Donc,
oui, ça fait un petit bout, quoi.
Voilà. Donc, j'ai pris contact avec lui quand j'arrivais. Il m'a bien accueilli ici. Il m'a, d'une certaine façon, facilité l'insertion. J'ai deux autres amis béninois. Un qui est arrivé récemment, que j'ai accueilli.
Encore plus récemment que toi?
Ça fait deux semaines qu'il est là.
Ah, ouais.
Oui, lui, c'est, disons, un ami d'enfance. On a carrément grandi ensemble.
Et c'est grâce à toi qu'il est là?
Disons un peu, je lui ai partagé...
À cause
J'ai partagé un peu mon expérience et il avait à peu près le même profil que moi. Donc, et il a tenté sa chance, disons, et voilà, il est là. Et j'ai un autre ami béninois que j'ai rencontré sur les réseaux sociaux, en réseautant. Et voilà, il se fait qu'il était béninois, basé à Dakar. Et il est à Toronto depuis, sensiblement la même période que moi et... Il est devenu mon meilleur ami de Toronto.
C'est important justement pour toi de reconnecter avec des gens de la communauté.
Oui. Maintenant, pour dire à Toronto, est-ce qu'on a beaucoup de Béninois? J'en connais quelques-uns, proches ou pas proches. Mais disons qu'il y a quand même une forte communauté, je vais dire, ouest africaine. Il y a des Ivoiriens, beaucoup d'Ivoiriens, des Camerounais que je rencontre.
Là, en plus, avec la CAN, c'est fédérateur. Les gens qui regardent les matchs. Donc, du coup, tu te dis, peut-être que si je me rends dans ce bar... Je vais reconnecter avec la communauté africaine de manière générale et peut-être que dans l'eau, je vais trouver 2-3 personnes de chez moi, en fait.
Exactement. Donc, je suis dépaysé, mais pas dépaysé en même temps parce que, voilà, il y a quand même des amis, il y a quand même des lieux où on peut rencontrer, des Ouest-Africains et vivement l'été pour vraiment faire des barbecues et reconnecter, effectivement, avec ce
moment. Ouais, c'est vrai que l'hiver, c'est un peu plus dur aussi. Les gens ont tendance à être un peu plus casaniers aussi.
Effectivement.
Comment ça s'est passé ton parcours d'intégration, toi, Didjoro? Parce que au final, comme on le dit, ça fait pas si longtemps que ça que t'es là.
Ça fait pas si longtemps.
Mais en même temps, t'as déjà trouvé du travail, t'as déjà connecté un petit peu avec des gens de ta communauté. Mmh. Donc ça a l'air de se passer plutôt pas mal, grâce à Dieu, c'est bien. Mais comment ça s'est passé, l'arrivée, jusqu'au moment où tu trouves du travail, tout ça?
D'accord. Il faut le dire, pré-arrivée. Il y a quand même le gouvernement canadien qui vous envoie un mail et qui vous adresse des structures, des organismes qui sont censés vous faciliter l'intégration.
Toi, tu es arrivé avec un visa, tu es arrivé avec une résidence permanente, tu es arrivé avec quoi comme
Je suis arrivé avec une résidence permanente. Mmh. Je suis ici avec ma famille, j'ai oublié de le dire. Je suis ici avec ma femme et mon fils de 3 ans.
Ah, tu as emménagé ici en famille, pas tout seul.
Non, pas tout seul. Pas tout seul. Donc, il y a ce mail que tout le monde ignore. Faites recours au service pré-arrivé ou pré-départ, ils appellent. Donc, j'ai pris la précaution de connecter avec la plupart des services, notamment les services francophones. Il y avait connexion francophone qui vous permettent, avant que vous arriviez, de comprendre un peu comment ça se passe ici, que ce soit sur le marché de l'emploi, que ce soit ou demander de l'aide, ou que ce soit. Enfin, ils vous exposent d'une certaine façon les réalités.
Oui, puis ça te permet de pouvoir arriver sans faire ce premier voyage comme certains font pour prendre un peu l'ambiance, découvrir sur place. Là, au moins, via ce truc-là, ça te permettait d'avoir une vision d'ensemble un peu.
Exactement. Donc, un des organismes, Access Employment, je pense, avait une série de 12 webinaires qu'il fallait faire avant de démarrer. Et c'est, la formation va surtout le CV, comment réseauter sur les réseaux, etc. Donc, disons que j'ai adhéré pleinement, je m'y suis mis à 100%. Et j'ai fait mon CV, j'ai réseauté comme c'est recommandé. Et voilà, disons que j'ai eu mon boulot, j'ai eu l'entrevue de mon boulot avant, la veille de mon départ.
Waouh!
J'ai tout suivi, le follow-up comme il fallait le faire. Et quand je suis arrivé ici, il y avait deux autres structures francophones, AFRI, dans York Region, ouais. Et le centre francophone, avec qui également on s'est mis en relation pour voir quel type d'aide est disponible, quels sont les types d'aide, en fait, quelles sont les aides qui sont disponibles pour les nouveaux arrivants. Surtout que je suis venu en famille, je n'avais pas de risque à prendre pour...
Ouais, il valait mieux être bien informé, quoi.
Voilà, donc c'est comme ça, ça s'est fait. Et une semaine, non, disons deux ou trois semaines après mon arrivée, par le biais du follow-up que je faisais avec mon actuel manager, il m'a fait la proposition de l'offre et voilà. Je suis arrivé le 26 mai et j'ai commencé mon boulot le 29 juin.
Waouh, ça c'est super, franchement bravo, parce que c'est tellement difficile d'être à jour, surtout les CV, comment ça se passe, comment on fait les follow-up justement, parce qu'il y a des grands écarts au final de... culture au niveau du travail. Exactement. Il y a plein de choses qui sont un petit peu différentes. Donc, du coup, toi, tu nous as dit le centre francophone, Access Employment, l'AFRI. Oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres programmes ou organismes que tu as pu contacter ou que tu as eu connaissance via ce fameux email que tu avais reçu de la part de l'immigration, justement?
Oui, il y a SEO, c'est francophone, mais je me rappelle plus.
La Société économique de l'Ontario.
De l'Ontario également, qui ils m'ont partagé beaucoup d'ailleurs de liens pour des foires d'emploi. Voilà, je cherchais le mot en français. Pour des foires d'emploi, personnellement, je n'ai pas eu recours à ça. Mais mon ami qui est arrivé il y a deux semaines, comme je le disais par exemple, par le biais d'une de ces foires d'emploi, est en train, par la grâce de Dieu, de sécuriser également un boulot dans les premières semaines de son arrivée. Donc, pour le dire, je sais que beaucoup de personnes ignorent ces services-là. Mais moi, ma recommandation pour un nouvel arrivant, si quelqu'un prépare son départ, qu'il se donne la peine quand même de suivre ses services, ne serait-ce que pour savoir comment faire son CV, ne serait-ce pour savoir comment réseauter, comment chercher du boulot. C'est totalement différent de ce qui se passe chez nous, au Bénin par exemple.
Comment tu expliquerais les défis? Parce qu'il y a quand même, même si on a l'impression que ton histoire elle est parfaite, tu as eu la résidence permanente avant d'arriver, tu as suivi à la lettre l'email que la plupart des gens mettent à la poubelle, tu as réussi à plutôt bien t'intégrer. Mais est-ce que tu as quand même été confronté à certains défis? Et si oui, ce seraient lesquels selon toi du coup?
Mes premiers défis, disons pour mon installation, c'était de trouver un logement. Ça, on ne le dit pas assez, c'est très difficile pour un nouvel arrivant de trouver un logement. Très difficile. J'ai pu trouver un logement malgré que je n'avais pas de code de crédit. Je n'avais pas... Non. Je venais le jour où, là où je vis actuellement, le jour où j'ai visité, j'avais l'offre. C'est ce qui a décanté, en fait, qui a rassuré mon bailleur de me laisser.
Parce que du coup, tu n'avais pas de crédit score, comme on dit, mais tu avais quand même un contrat, une proposition. Oui, une proposition. Donc du coup, ça rassure la personne en disant « Ok, il vient d'arriver, donc forcément, il n'a pas encore tout ce qu'il faut. Oui. » Mais au moins, il a un travail, il va pouvoir payer son loyer quoi qu'il arrive.
Mais avant ça, on a cherché. On était dans un Airbnb, mais avant ça, on a cherché et les réponses étaient totalement négatives.
Ouais, totalement, c'est difficile.
Totalement négatives. Donc, c'est vraiment un parcours de... Ça augmente du stress, ça ajoute du stress à ce qu'on vit déjà, chercher du boulot et trouver un hébergement, un logement permanent, surtout en famille, c'est difficile. Le centre francophone a fait ce qu'il pouvait, ils nous ont aidé à visiter deux ou trois choses où les bailleurs étaient plus aptes à
accepter des nouveaux arrivants.
Mais on est nombreux, on était nombreux dans la situation et tout, donc ça n'a pas prospéré de ce côté. On est débrouillards, ma famille et moi, on s'est mis
dans l'objectif de trouver quelque chose assez rapidement. Ouais.
Voilà, donc, et voilà.
Et du coup, comment tu as trouvé l'appartement où vous êtes installé actuellement? Grâce justement au centre francophone, ou ça c'est bouche à oreille, vos recherches de votre côté, à vous, en famille?
On a trouvé sur Facebook Marketplace et Kijiji. L'offre était listée deux fois.
Okay.
Donc, on a contacté le proprio, la proprio, et elle a accepté de nous faire visiter. Au moment où je visitais, on prévoyait la visite, je n'avais pas encore l'offre d'emploi. Donc, j'ai reçu l'offre d'emploi le matin et on allait visiter le soir. Donc, quand elle nous demandait comment ça allait se passer, elle a compris qu'on était des nouveaux arrivants. Elle aussi a un parcours d'immigrés il y a longtemps.
Donc c'est peut-être plus simple aussi.
C'était un peu plus simple, mais ça l'a rassurée
de voir que tu avais eu l'offre, quoi.
Oui. Et mon ami qui m'a accueilli, qui vit à Hamilton également, s'est accepté de se porter garant également pour qu'on ait plus de facilité pour avoir
la solidarité, quoi.
Oui.
top.
C'est très
ça,
important.
C'est bien, c'est important. Ouais. Mmh. Surtout quand on est au début et qu'on a beau avoir la meilleure volonté du monde.
C'est difficile.
Pour rassurer des gens, il faut quand même des actes, des preuves et effectivement avoir un contrat ou en tout cas une offre, un ami qui peut éventuellement être garant.
Exactement.
Ça enlève une épine du pied pour la personne. Mais du coup, est-ce que tu penses que les défis que toi, tu as rencontrés, ce seraient les mêmes pour les nouveaux arrivants? Quels sont, selon toi, en fait, les défis que les nouveaux arrivants francophones, ils sont le plus confrontés? Est-ce que c'est la recherche d'emploi? Est-ce que c'est la recherche de logement? Ou est-ce que peut-être tu penses à autre chose?
Il y a beaucoup d'autres défis. Il y a beaucoup d'autres défis. Moi, je viens d'Afrique. Je n'avais jamais voyagé. Donc, le choc des transports.
Ouais.
Les transports, c'est la mer à boire. Mais ça passe au bout de 2 semaines. Quand tu prends le transport tous les jours, au bout de 2 semaines, tu as l'impression de maîtriser. Tu te trompes moins d'arrêt, tu te trompes moins de direction. Ça, c'est un choc. Deuxième choc, moi, je n'ai pas de problème avec l'anglais. J'ai vécu un peu au Nigeria, c'est à côté du Bénin. Donc
je comprenais
un peu anglais. Ma femme, non, mais elle s'est adaptée très rapidement. Ça, par contre, c'était aussi un défi, la langue, pour quelqu'un qui n'a aucune notion de l'anglais. Deuxième défi, disons le dernier défi que je vais noter, pour nous, on était en famille, on avait un enfant. Donc,
en bas âge du coup?
Oui, 3 ans. Donc il faut trouver une garderie et une garderie francophone. Donc c'était, comme j'ai dit, la préparation. Beaucoup d'Afri et connexions francophones nous ont quand même mis sur des pistes de la façon dont il fallait contacter les garderies à l'avance et tout. Et ne pas prendre un nom où il n'y a pas de place actuellement comme un nom. Mais insister pour se mettre sur la liste d'attente. Donc, figurez-vous, mon fils a eu 2 garderies avant celle où il est maintenant, puisqu'on avait un Airbnb, il allait déjà dans une garderie quand on est arrivé. Quand on a déménagé, on était sur la liste d'attente d'une autre garderie à Macam. Et dès qu'on a emménagé, il a pu entrer à cette garderie-là, francophone, et ça va. Beaucoup n'ont pas idée de venir avec les enfants
la
et tout.
La difficulté, ouais.
Et ça s'ajoute à comment je cherche du boulot. Si ton enfant doit être là et tout, c'est compliqué. Alors que si tu peux le mettre dans une garderie, tu as toute la journée pour vraiment courir dans tous les sens comme il faut.
Et les prix de la garderie, c'était pas trop affolant par rapport aux prix que tu connaissais?
Par rapport à ce qu'on a entendu, non, c'était pas affolant. Ça reste raisonnable. Les garderies francophones, je ne sais pas, on n'a pas cherché de garderies anglophones. Les garderies francophones tournaient autour de 400, moins de 500 dollars le mois.
Donc ça va.
Oui, pour du temps plein, donc ça va.
Du coup, bon, on en a déjà eu quelques-uns de conseils, mais ce serait quoi, du coup, les conseils que tu donnerais aux nouveaux arrivants francophones? Nous, on a compris, là, maintenant, toi, vous avez été très préparé avec ta femme, justement, et c'est peut-être ça qui a facilité
les choses,
c'est clair. Quand on écoute ton parcours, on se dit... Ah ouais, en fait, si j'avais su, moi aussi, j'aurais dû préparer mon coup. En tout cas, un peu mieux. Mais ce serait quoi les conseils que tu donnerais, Didjoro, du coup?
Premier conseil, se renseigner. Se renseigner, mais en même temps, ne pas prendre l'expérience de gens pour la vérité, en fait, pour ce qui va forcément m'arriver. Mais avoir l'information sur comment ça se passe, sur presque tous les sujets, que ce soit comment chercher du boulot, comment chercher... un logement, comment se déplacer à Toronto quand on est arrivé, sur tous les sujets. Il vaut mieux être prêt, avoir une idée de comment ça se passe. Et je pense que ça se passe un peu mieux quand on arrive et on a l'information que quand on vient tout découvrir ici. Faire son CV à l'avance et vraiment, disons dans les 1 mois avant d'arriver, commencer une recherche très active et ne jamais ignorer les services d'aide à l'intégration, puisqu'ils ont beaucoup de ressources, ils ont beaucoup de foires, ils ont beaucoup de webinaires vraiment qui vous permettent de glaner une information par-ci, d'être au contact d'une opportunité par-là et tout. Donc. Et aussi, intégrer la plupart des groupes francophones sur Facebook, c'est ce que j'ai fait par le biais du réseautage. Mon boulot, j'ai fait un post, j'ai annoncé que j'arrivais et que voilà, je cherchais une opportunité. Et quelqu'un dans le groupe m'a présenté l'opportunité de mon boulot actuel et m'a demandé de postuler. Voilà comment ça s'est passé.
Ouais, donc en fait, si on résume, c'est la préparation. La préparation,
oui,
c'est
toujours.
Très, très, très important. Et surtout, ne pas fermer les yeux sur toutes les aides, tous ces organismes. On se dit, oh, je verrai ça plus tard, là, je suis dans mon départ, je suis dans l'excitation du truc. C'est important de prendre une pause et de vérifier toutes les informations qu'on vous envoie.
Exactement. Et aussi, je ne sais pas pour les autres pays, nous, par exemple, les Béninois, on a un petit orgueil, on ne veut pas l'aide. On ne veut pas l'aide, mais l'aide est très importante ici. Il ne s'agit pas de se retrouver dans une condition de, je ne dirais pas de misère, mais quand même demander de l'aide, histoire de retomber sur ses pattes au bout de 2, 3 mois, 6 mois ou plus. Et voilà, tu peux reprendre ta vie correctement. Il n'y a rien à, il n'y a rien de négatif à demander de l'aide ou à faire recours à l'aide.
Oui, puis ça ne veut pas dire que tu es un assisté. Au contraire, ça veut juste dire que tu as pris conscience de l'ampleur de la chose et que pour éviter les dommages collatéraux, en plus, il y a un enfant dans l'histoire, tu es en famille, tu n'es pas tout seul. Tout seul, tu trouves une coloc, tu rebondiras plus tard. Là, quand tu es en famille, tu ne peux pas avoir le confort précaire. Pour trouver du travail, tu ne seras pas dans les bonnes conditions.
Exactement.
Tu sais, Didioro, quand on parle français en général dans la rue, les gens ils vont avoir tendance à dire « Ah, tu viens de France ?» ou « Ah, tu viens du Québec ?» Ils oublient que la francophonie, elle est super large, elle est super diversifiée. On parle français aux quatre coins de la planète, avec un accent, des expressions différentes, avec des têtes différentes. Mais du coup, c'est souvent ce même truc. « Ah, tu viens de France ? Ah, tu viens du Québec ?» Est-ce que justement, tu penses que le fait de faire passer le mot, de faire comprendre aux gens que la francophonie, elle est diverse, ça permet justement de lutter un petit peu contre les discriminations et faire comprendre que notre francophonie, elle est plurielle et puis elle est belle aussi un petit peu.
C'est vrai que on m'a déjà demandé si je viens de France, juste parce que je parlais français. Et j'ai dit non, je viens du Bénin, on parle également français au Bénin. Je n'ai pas pris ça personnellement parce que je pense que beaucoup de gens n'ont pas cette ouverture d'esprit de comprendre qu'il y a d'autres pays où le français existe et le français est la langue officielle. Donc, moi, je ne prends pas ça personnellement. Et comme j'ai dit, c'est le même effet avec mon nom, d'aller au contact des gens et de leur apporter, d'échanger avec eux et comment, de leur communiquer que voilà, au Bénin et plusieurs autres pays en Afrique parlent français et sont capables de parler français correctement, pas seulement parce qu'on ne vient pas de France.
Et justement, quand tu donnes ton nom, est-ce que tu as souvent la question de « Ah, mais c'est joli ton prénom, ça vient d'où ?»
Oui. Pas chez les Noirs. Pas chez les Noirs.
Parce qu'ils savent que forcément, il y a le prénom, le vrai prénom qui vient du bled, entre guillemets, comme on dit, et le prénom colonisateur, entre guillemets, avec forcément une connotation plus francophone ou anglophone, si on vient par exemple d'un autre pays.
Exactement. Mais par contre, pour des Canadiens, ça les pique, Didioro, c'est pas commun du tout, donc voilà. Il y a un peu de curiosité, c'est beau. Le premier exercice, c'est l'exercice de la prononciation.
Oui,
donc dès que ça passe, certains ont la curiosité de savoir ça vient d'où, ça signifie quoi. Et c'est vraiment avec plaisir que je...
Que tu racontes ton histoire.
Voilà.
Alors là, maintenant, Didioro, on va passer dans la deuxième partie de cette entrevue.
Oui.
Comme je t'avais expliqué, ça va être comme un quiz, petit peu. Il faut que tu me répondes un petit peu spontanément.
D'accord.
Okay? Donc, je vais te poser des questions. Tu me dis un peu ce qui te vient en premier dans la tête.
D'accord.
Si je te dis quel est l'acteur ou l'actrice la plus connue au Bénin, ce serait qui ?
Dima Ousso.
OK. La chanteuse ou le chanteur le plus connu ?
Angélique Kidjo.
OK. Un film culte ?
Du Bénin.
Ouais. Ou qui parle du Bénin.
Qui parle du Bénin.
Ou alors un film béninois, carrément.
Un film culte que je ne l'ai pas regardé. Ça s'appelle Yatin. Beaucoup de Béninois le connaissent. C'est vraiment un film dramatique, avec mélangé à de l'horreur. Et vraiment, beaucoup de gens en parlent, terrifiés. Mais parce que ça montre un peu comment l'homme peut être mauvais.
Toi, tu ne l'as pas vu parce que tu avais peur parce que ce n'est pas ton style de film.
Ce n'est pas mon style de film. Tout ce qui est horreur, moi, je ne regarde pas.
Moi non plus,
mais bizarrement, c'est le premier film qui me revient parce que beaucoup de gens l'ont regardé. Beaucoup de gens
l'ont... Ça a fait parler beaucoup.
Oui, effectivement. Donc, j'ai participé à des débats avec et tous, même sans l'avoir vu.
OK. Si je te disais le plat typique du Bénin, ce serait quoi ? Explique-nous un petit peu comment c'est.
Le plat typique du Bénin... Je vais dire le plat qui me manque le plus, c'est l'yam pilé avec la sauce d'arachide.
Comment c'est ? Ça se compose comment ?
Déjà, bon, il y a la sauce qui est faite à base de noix d'arachide. On mélange avec de la tomate. Et il y a ce qu'on veut dedans, de la viande, des morceaux de fromage. Pas le fromage que vous avez en France, c'est du fromage de vache fait qu'on appelle wangashi. Et liam pilé lui-même, l'original, il est fait avec de liam bouilli qu'on a pilé dans un mortier pour le rendre élastique en boule.
Ok, oui. Comme une pâte un peu?
Oui, comme une pâte un peu. Il existe la poudre pour le faire avec...
Comme la purée décomposée, là, que tu rajoutes juste du lait et que d'un coup, ça redevient une purée?
Pas du lait, mais de l'eau chaude, ouais. De l'eau chaude et en bas, et ça donne la même consistance. Mais liam pilé fait de façon traditionnelle reste la meilleure pour moi.
Et est-ce que tu arrives à retrouver justement les ingrédients jusqu'à présent?
Non, on trouve la poudre ici.
Ouais.
Donc on peut faire liam pilé à base de poudre, mais liam pilé comme il faut un mortier. Et il faut des dames pour piler.
Donc, on parlait du plat. Maintenant, on va parler de la boisson la plus populaire au Bénin. Ce serait quoi, selon toi?
Deux volets. La boisson alcoolisée la plus populaire et la boisson non alcoolisée la plus populaire. D'accord. Non alcoolisée, c'est le bissap. C'est des fleurs d'hibiscus. Il y en a ici à Toronto. C'est hyper cher par rapport à ce que ça coûte au Bénin.
Ouais, tu m'étonnes.
Oui. Mais voilà, c'est très populaire de l'avoir.
Ça se boit froid, ça se boit chaud.
Ça se boit froid, même des fois congelé. On forme des blocs de glace avec. Enfin, quand on était plus jeune, les bonnes dames ou les mamans en faisaient dans les congélateurs. De petits formats comme ça. Donc, il fallait juste percer le bout du sachet et sucer jusqu'à... Donc, un peu ça. Ouais. Maintenant, la boisson alcoolisée, c'est en fait la bière bénine, qui s'appelle la béninoise.
Ok.
Ma préférée, très nostalgique de cette bière. J'ai essayé la canadienne ici, Molson, ça va, mais la béninoise me manque.
Ouais, tu m'étonnes. Voilà. Elle a une saveur particulière ou pas?
Oui, je ne pourrais pas décrire exactement son goût, mais elle était différente de vraiment toutes les autres bières.
Tout ce que tu as goûté?
Oui, et très appréciée au Bénin. Les vendredis, c'est vraiment la folie autour de la bière.
Ouais, tout le monde prend sa petite bière et boit un coup.
Les week-ends sont très arrosés de bière et tout, donc ça, c'est aussi quelque chose qui...
Qui te manque la fête un peu?
Oui.
L'esprit festif. Mm-hmm. Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. Ici, c'est toujours un peu différent. Puis en plus, l'alcool, on arrête à 2h du matin.
Le matin, effectivement.
C'est pas la fête toute la nuit. Même les mariages, à 2h, c'est fermé, c'est rideau. Alors que nous, on a l'habitude de faire la fête le plus longtemps. Ouais, je comprends. Si, Didioro, je te disais, je vais au Bénin bientôt.
Oui.
Et j'ai absolument envie de visiter plein de choses. Il ne faut pas que je rate des endroits touristiques ou des endroits magnifiques. Il faut absolument que je voie. Qu'est-ce que tu me conseillerais de voir en premier? Genre le truc qu'il ne faut pas rater quand on passe au Bénin, justement.
C'est tout nouveau. Le truc qu'il ne faut pas rater et qui donne la preuve que tu es allé au Bénin actuellement, c'est la statue de l'Amazone. Et ça, c'est à Cotonou. Cotonou est actuellement la plus grande, la ville la plus, je ne dirais pas la plus importante, mais c'est vraiment la ville la plus importante du Bénin, mais n'est pas la capitale. La capitale est à une quarantaine de minutes à côté de Cotonou. Mais Cotonou est la capitale, disons, économique.
Toronto n'est pas la capitale du Canada, mais c'est la capitale économique.
Voilà, le poumon. Et on a actuellement une très grande statuette de l'Amazone. Les Amazones, en fait, c'est des braves femmes au temps de nos rois. C'était un corps armé, un régiment armé de femmes. Qui avaient, disons, fait vœu de chasteté et qui étaient connus pour leur férocité, leur façon d'être intrépide pendant la guerre.
Des Wonder Woman, quoi.
Disons, oui. Ouais. Donc, on les appelle les Amazones. Donc, actuellement, le Bénin a une très grande statue de l'Amazone. Et c'est sur une grande place à côté de la présidence. Et vraiment, si tu vas au Bénin et tu n'as pas fait une photo à côté de la statue d'Amazone...
J'ai raté.
Oui, tu as raté.
OK.
Mais en termes d'attraction touristique... je te recommanderais également de faire le circuit, ce qu'on appelle la route des esclaves. C'est tout un circuit touristique à Ouida. Ouida également n'est pas très loin de Cotonou. Et disons, on a connu l'esclavage, le Bénin malheureusement quand même a été un des ports les plus importants de l'esclavage en son temps. Donc il y a des vestiges de cette période-là à Ouida. Qu'on appelle la côte des esclaves et tout, jusqu'à la porte du non-retour. Il y a tout un circuit touristique qui est vraiment fréquenté.
Et ça prend combien de temps à le faire, ce circuit?
Ça peut se faire en une journée.
OK.
Ça peut se faire en une journée. Je l'ai raté cette année parce que le gouvernement actuel est en train de mettre, en avant, la culture vaudou. Le vaudou est en fait, disons, nos pratiques ancestrales, culturelles. et tout. Donc, le gouvernement est dans une optique de démystifier ce vaudon et de lui rendre sa place culturelle, en fait, parce que le vaudon, d'abord, c'est des danses, c'est des tambours et tout. Donc, cette année, ils ont instauré un festival qui s'appelle les Vaudoun Days. Il faut le dire, déjà, au Bénin, on a le 10 janvier qui est une journée fériée, qui est la journée du vaudon. Okay. Donc, à côté de cette journée du Vaudon, depuis cette année seulement, on organise un festival où vraiment sur l'esplanade à Ouida, il y a beaucoup de masques qui sortent pour danser, beaucoup d'adeptes de culte Vaudon qui sortent pour danser. Et ça a attiré assez de touristes cette année. Et je pense qu'il y aura d'autres éditions. Peut-être c'est prévoir d'aller au Bénin, il faut choisir cette période pour vraiment participer à ces festivités. J'ai vu ça sur les réseaux, c'était vraiment beau. J'ai eu un pincement au cœur. De ne pas y être.
Ouais.
Mais j'espère pouvoir m'y rendre l'année prochaine.
Si Dieu veut, comme on dit.
Oui.
Quel est le sport le plus connu ou le plus pratiqué au Bénin?
C'est le football.
Ouais.
Oui, c'est le football. Il y a du basket également, mais un peu moins que le football. Mais le Bénin est quand même champion et vice-champion de pétanque.
Ah !
Oui.
Un vestige de la France, ça, complètement, oui. Parce que la pétanque, c'est tellement un truc qu'on voit dans le sud de la France.
Oui, on n'est pas... Le football, c'est ce que tout le monde pratique à tous les coins de rue, mais on n'a pas encore une bonne équipe, on n'a pas encore fait des prouesses. La preuve, on est absent à la CAN cette année. Mais par contre, pour la pétanque, le Bénin, quand même, a une très belle équipe.
Ah, incroyable, ça. Quelle est l'expression, une expression peut-être typique, que si tu l'entends dans la rue, tu dis « Waouh !» Mais attends, lui, c'est sûr qu'il est béninois.
Est-ce qu'on a une expression typique? Avec les réseaux et notre proximité avec d'autres pays de la sous-région, notamment la Côte d'Ivoire, ça fait qu'on se partage beaucoup d'expressions.
Ouais.
Mais une expression typique, on reconnaîtra un béninois à son accent d'abord. On se reconnaît en béninois par rapport à l'accent. Mais est-ce qu'on a une expression typique? Je ne dirais pas. Parce que beaucoup de choses changent en fonction des buzz et des mauvais buzz sur les réseaux.
Puis en fonction des générations aussi, peut-être.
La génération actuelle ou celle qui fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux actuellement change d'expression chaque 2 mois. Ouais. Aujourd'hui, c'est mon combat. Tu ajoutes quelque chose, tu dis mon combat. La CAN, mon combat. Ça montre que voilà, c'est ce que tu veux défendre. Donc, beaucoup de gens, tout en dérision, mettent beaucoup de sujets. Mais d'ici 2 mois, il y aura une autre phrase va passer. Donc, voilà. Et ça se répand dans toute la sous-région. Les Ivoiriens l'utilisent, les Camerounais l'utilisent, les Béninois l'utilisent et tout. Donc, on a eu beaucoup d'autres expressions comme ça. Actuellement, c'est mon combat qui
est en train, comme on dit.
Voilà.
Si je te disais, alors cette question, je l'explique toujours un peu plus parce que quand on dit stéréotype, on a toujours l'impression que c'est négatif, alors que pas forcément. Mais est-ce qu'il y aurait un stéréotype ou un cliché un peu facile sur les gens du Bénin et ce serait quoi? Je compare par exemple à la France et aux Parisiens. Mes chers Parisiens, je vous aime, mais c'est vrai que nous, à Paris, on fait tout le temps la gueule, on est tout le temps en train de se plaindre, rien n'est toujours assez bien. Il y a toujours quelque chose à redire, tu vois. Qu'est-ce que ce serait si tu devais dire voilà, la même chose au Bénin? Est-ce qu'il y a un stéréotype ou un cliché un peu populaire, entre guillemets? Ça peut être quelque chose de positif. Hein. Moi, c'est juste que sur les Parisiens, je préfère dire des trucs négatifs parce que c'est drôle.
Ça me fend le cœur de le dire comme ça, mais je vais donner 2 stéréotypes.
Okay.
On dit le Béninois est mauvais. Ça, c'est quelque chose que les gens disent parce que... au Bénin, on a du mal à, d'une certaine façon, évaluer l'égoïsme, enfin, à faire la différence entre l'égoïsme et la personne qui se préfère à soi. Donc, quelqu'un qui met ses intérêts
avant
celui des autres, voilà, il va être catégorisé de voilà, le Bénin. Enfin, cette phrase est tout le temps répétée, le Bénin est mauvais parce que voilà, quoi. À cause de... Bon, ça, c'est mon analyse. Ça va un peu plus au-delà, parce que ça a rapport avec la deuxième chose que j'allais dire. Le Bénin, actuellement, la capitale du Vaudon. Le Vaudon, et c'est ce que le gouvernement béninois est en train de faire et que j'apprécie, c'est de démystifier le Vaudon. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui ont juste entendu beaucoup de préjugés par rapport au Vaudon, c'est ancestral. C'est entouré de mystères, limites ésotériques, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Et ce qu'on ne peut pas comprendre, ce qu'on ne peut pas expliquer facilement, c'est le bouc émissaire de toutes les pensées négatives, c'est le bouc émissaire de toute la méchanceté dont l'humain est capable. Donc on dit, voilà, les Béninois, ils sont adeptes du Vaudon, et le Vaudon, c'est méchant, ils utilisent le Vaudon.
Magie noire.
Voilà, ils utilisent la magie noire pour atteindre des fins, voilà. C'est quelque chose pour lequel on est connu. À tort, Parce que voilà, la méchanceté, elle est quand même dans le cœur de beaucoup de personnes.
Ah oui,
de,
oui, il n'y a pas besoin de faire du vaudou pour ça.
Voilà. Donc, or, le vaudou, en fait, pour ce que moi j'ai lu, pour, le peu de pour la documentation que j'ai reçue, c'est en fait un chemin de vie. Et le vaudou n'est pas censé accepter le mal. Puisque si, d'une certaine façon, une entité ou une divinité t'aide à faire du mal, ce que tu as lancé dans la nature va te revenir.
Comme un boomerang.
Exactement. Donc, si tu fais du mal, tu vas en subir la conséquence. Donc, le vaudou vous enseigne ce chemin de vie, de respecter autrui, de respecter la nature et de n'y lancer que des ondes positives pour que ça vous revienne. Mais beaucoup de personnes ne savent pas ça. Mmh. On a catégorisé les adeptes de vaudou directement comme des gens qui...
De sorciers, ouais.
Voilà, qui font de la sorcellerie et tout. Et vraiment, vraiment, c'est à tort.
Si je te dis, il y a combien d'heures de vol entre Toronto et le Bénin, tu me réponds quoi ?
26 heures, techniquement, oui.
Parce qu'il y a forcément escale. Des escales, oui. Ouais. Tu les fais où les escales, du coup, pour venir ?
Quand j'arrivais, j'ai fait 5 heures à Istanbul,
okay.
Avant de venir. Donc, le total faisait 26 heures.
Parce qu'il n'y a pas de vol direct entre le Bénin et Toronto, de manière... Et le Canada, peut-être, de manière générale ? Ou est-ce que si tu venais à Montréal, ce serait plus simple ?
Non, ce serait toujours... Je devais transiter par l'Europe, toujours. Peut-être le seul vol qui aurait été direct, et je pense qu'il ne serait pas direct, c'était d'aller le faire à Lagos, Émirates. Mais je pense qu'Émirates irait en Arabie Saoudite ou quelque part là-bas.
Quoi qu'il arrive, il faut faire une pause, quoi.
Pas de vol direct.
OK. C'est quoi la capitale du Bénin, pour ceux qui n'ont pas compris encore?
La capitale du Bénin, c'est Port-Novo. Mais quelqu'un qui t'aborde... Ah, tu viens du Bénin, il parlera de Cotonou. Cotonou est la ville la plus connue, la ville principale, mais n'est pas la capitale politique du Bénin.
Et il y a combien d'heures de décalage entre Toronto et le Bénin ?
Actuellement, on en a 6.
Et est-ce qu'il y a plusieurs fuseaux horaires au Bénin ou il n'y en a qu'un seul ?
On n'en a qu'un seul.
Ouais.
On n'en a qu'un seul. Et voilà, on est en retard de 6 heures sur le Bénin.
C'est exactement le même horaire que Paris, en fait.
Mmh, exactement.
Est-ce qu'il y a des dialectes au Bénin ? Et si oui, il y en aurait combien ?
Dialectes ?
D'autres langues que le français, en fait.
Ah oui.
Tu vois, par exemple, dans certains pays, on va parler Wolof, on va parler Swahili.
Exactement.
Est-ce que vous avez des dialectes aussi, vous ?
Oui, on a, disons, nos langues locales. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup.
Quand tu dis beaucoup, ça se chiffre ou c'est vraiment énorme ?
Je peux en dénombrer 14.
Ah ouais.
Je peux en dénombrer 14. Mais une particularité, c'est qu'au sud du Bénin, on appelle cette partie du Bénin, historiquement, l'air fond. Que ce soit au niveau historique, qu'au niveau en termes de géographie, l'air fond. Le fond, en fait, est la principale langue du sud du Bénin, mais est déclinée en plusieurs autres langues, comme la mienne, le Gou, celle des Minas, plus basée à Lomé, enfin au Togo, mais il y a eu des mixages entre nos peuples, et il y a le Mari également. Ça fait que, en fait, un Mari, un Gou, un fond, un Minan peuvent parler leur propre langue et se comprendre.
Ok, il y a quand même pas mal de similitudes.
Oui.
Ouais.
Ça, c'est pour le sud du Bénin. À part ça, maintenant, on a le Yoruba qu'on partage avec le Nigeria. Il y a du Hausa, il y a du Dindi, ça, c'est le nord du Bénin. Il y a le Dindi, les deux langues les plus populaires au nord du Bénin, c'est le Dindi et le Bariba. Mais à part ça, il y a d'autres langues qui sont dérivées, comme le Lupa. Je ne maîtrise pas tout ça.
Mais est-ce que c'est des langues que tu apprends un peu à l'école ou c'est des langues que tu apprends via les anciens et les générations, quoi?
Malheureusement, non. Mais ces langues s'apprennent dans le cocon familial. Mm. Le français a beau être notre langue officielle à la maison.
Chacun parle
chacun
son
parle
dialecte.
La langue, oui, voilà, disons sa langue maternelle.
OK. Donc, du coup, c'est...
C'est préservé.
Ouais, et du coup, le seul moyen, justement, de préserver ces langues, c'est de les parler à la maison, de les enseigner des vieux aux jeunes pour que de génération en génération, ça soit toujours utilisé, en fait.
Je ne pense pas qu'on perdra nos langues dans nos pays. C'est peut-être pour nous qui sommes partis que ça va être compliqué, mais dans nos pays, on ne perdra pas la langue de sitôt.
C'est beau, ça, je trouve.
Le tissu est... Je pense que le tissu est quand même bien concocté à telle enseigne. L'enfant apprend déjà... Depuis petit, la langue que sa maman ou ses nounous, les personnes avec qui il est en contact, c'est très, très rare de voir... Bon, il y a des familles qui vont parler français régulièrement à la maison, mais à la maison, dès que tu rentres, tu as quitté le boulot, tu as quitté l'école, tu reprends la langue dans laquelle tu...
Tu grandis, tu vis, voilà. Est-ce qu'il y a un habit traditionnel au Bénin? Et ce serait quoi?
Bon, traditionnel, un habit de tous les jours, on appelle ça le boubou. C'est une pièce de tissu pour l'homme, c'est un pantalon, c'est disons une sorte de pantalon, mais il n'a pas de bouton. C'est, on met c'est toujours du pagne qu'on a cousu en fil pour serrer la
ceinture. Une ceinture, ouais.
Voilà. Et après, il y a une sorte de tunique en haut. Ça peut venir jusqu'à...
Manche longue.
Oui, et ça descend après genou. Maintenant, à ça, on peut ajouter une tenue d'apparat qui est normalement pour des personnes aisées ou des figures importantes. Il y a une troisième pièce qu'on ajoute et qu'on appelle le agbada.
Ok. Est-ce qu'il y a une danse traditionnelle au Bénin?
Beaucoup. Il y a beaucoup de danses traditionnelles. Et un coucou à toutes ces personnes qui se révèlent du christianisme et qui ignorent que la plupart de ce qu'on adapte comme chanson que pour louer Dieu, pour louer Jésus, viennent en fait de rites vaudous qu'on a en fait parce que traditionnellement, c'est des rythmes qui sont passés de génération en génération. Donc chanter traditionnel, comment dire? Ce n'est pas un créateur, ce n'est pas un artiste qui a créé un rythme. Ces rythmes-là ont été traduits de nos traditions. Mm-hmm. Et ces traditions-là sont vaudou. Donc aujourd'hui, quand tu chantes de façon traditionnelle, c'est forcément un rite vaudou. On a le ranyé, on a le toba. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de danses traditionnelles. Et comme c'était un peu mesquin d'avoir fait un coucou au christianisme, mais c'est que pour intégrer ces religions aujourd'hui en Afrique, on les adapte, une sorte de syncrétisme, et on fait des chansons religieuses, mais sur des rites, disons, africains. Mais beaucoup ignorent qu'en fait, qu'à l'origine, ces rites-là étaient des rites vaudou.
Comme quoi, le vaudou, ça a une place super importante. Au final, c'est central. Hein.
Importante.
C'est quoi l'hymne national au Bénin? Alors, je ne te demande pas de le chanter, hein, Djoro, tranquille, oui. T'inquiète pas.
D'accord.
C'est pas le moment chantons. Mmh. C'est juste, dis-moi, c'est quoi le titre de l'hymne national et de quoi ça parle globalement?
L'hymne national du Bénin s'appelle l'Aube Nouvelle. Aube, A-U-B-E,
ouais.
L'Aube Nouvelle. Ça, enfant du Bénin debout. Ça invite en fait au patriotisme, à se lever pour prendre le destin du peuple et du Bénin.
Et à quoi il ressemble le drapeau du Bénin? Est-ce que tu peux nous le décrire, les couleurs, qu'est-ce qu'il y a dessus?
Le drapeau du Bénin est l'un des drapeaux les plus simples, un peu comme celui de la France. Trois couleurs, le vert, le jaune et le rouge. Le vert, il est à droite et disons un rectangle droit. Et il y a le jaune et le rouge qui font la moitié de la longueur du vert. Le jaune en haut et le rouge en bas, vert, jaune, rouge.
Et est-ce que tu sais pourquoi ces couleurs sur le drapeau ou pas forcément?
C'est, en fait, tout est relaté dans l'hymne national. Je sais que le vert, symbole de la richesse et de l'agriculture. Le jaune, oh là là, j'ai oublié.
Mais ça me bat.
Mais c'est dans... par curiosité, si quelqu'un retrouve l'hymne du Bénin, pourquoi ces couleurs sont les couleurs
du Bénin. C'est expliqué dans la chanson.
Sont expliquées dans la chanson.
Ben voilà, les auditeurs, on vous donne des devoirs. Si vous voulez savoir un peu plus les couleurs du Bénin et pourquoi, n'hésitez pas à checker un petit peu les paroles de l'hymne national. Avant qu'on se quitte, Djoro, est-ce que tu aurais quelques mots à dire à la communauté béninoise, à la communauté francophone, aux nouveaux arrivants, aux gens de manière générale, à la vie? Comment on finit cette entrevue tous les deux? Qu'est-ce que tu as à nous dire?
Déjà, merci de m'avoir reçu, de m'avoir donné l'opportunité de parler un peu de moi, de parler un peu du Bénin. Le Bénin me manque énormément. Je suis ici depuis 6 mois seulement, mais le Bénin me manque. Et si j'ai quelque chose à ajouter, le Canada est une terre d'opportunités. J'en fais les frais, les bons frais moi-même. Donc, il s'agit d'être préparé. De savoir ce pourquoi on vient et de ne pas s'inquiéter que de son billet d'avion et de prendre l'avion pour arriver. Il faut être préparé pour tirer le meilleur parti de ce que ce pays a offert.
Et ben c'est sur ces belles paroles et sur ce conseil, je pense que c'est un peu le mot de cette émission. Soyez préparés si jamais vous envisagez de venir ici et si vous envisagez de venir en famille, comme dit Djoro, le meilleur truc à faire, c'est de suivre tous les conseils qu'on a pu vous donner. Et puis, toutes les mains tendues sont bonnes à prendre. En tout cas, merci beaucoup pour avoir été avec nous aujourd'hui, Djoro. C'était donc Nathalie Salmeron dans Racine Franco. Et je rappelle que ce projet, il est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Merci, à bientôt, Djoro.
Merci, au revoir.
Vous écoutiez Racine Franco sur Choc FM 105.1. Pour retrouver l'ensemble des épisodes en réécoute à la demande, rendez-vous sur chocfm.ca ou en vidéo sur YouTube.